Là, j'ai besoin de faire un dessin parce que, en fait, avec Herschel, on est potentiellement.
Faites un dessin pour la radio.
Voilà. Avec Herschel, on est potentiellement capable de voir les galaxies de aujourd'hui à leur époque de formation. Justement, on ne sait pas exactement quand est-ce que les premières galaxies ou proto-galaxies apparaissent. C'est un processus d'assemblage, donc il démarre dès que l'univers commence à se structurer.
Les savants.
Les aventuriers.
Les savants.
Turiers.
Les aventuriers. Fabienne Chauvière.
Comment se forment et évoluent les galaxies? Pourquoi toutes les étoiles ne se ressemblent-elles pas? Voilà des questions qui intéressent beaucoup Marc Sauvage, un jeune astronome à l'allure sportive qui n'a jamais passé beaucoup de temps à observer le ciel à la lunette par des nuits sans lune. Son observatoire est très loin, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. L'observatoire de Marc Sauvage, astrophysicien au CEA, c'est Herschel, un satellite lancé en mai dernier qui regarde avec son grand télescope dans un domaine totalement invisible pour l'œil humain, celui de l'infrarouge. Depuis l'ordinateur de son bureau du centre de Saclay, Marc Sauvage a une fenêtre sur les mondes enfouis de l'univers et il se promène au quotidien au milieu des poussières interstellaires.
Les aventuriers, Fabienne Chauvière.
Je suis né le 16 juillet. Il se trouve que c'est coïncident avec d'autres 16 juillet qui ont un écho assez particulier. Pour ce que je fais, c'est le 16 juillet 69, c'est le décollage dans la Lune. Et puis pour qui je suis, c'est le 16 juillet 42, qui est la rafle du Veldiv. Parce qu'il y a une partie de ma famille qui n'a pas été raflée dans la rafle du Veldiv, mais dans une autre. Parce que la famille du côté de ma mère est juive. Donc c'est une histoire qui a son importance pour la personne que je suis. Mais pour ce que je fais, c'est vrai que ça m'a fait plaisir de réaliser quand même finalement assez tard que le décollage d'Apollo 11, c'est le 16 juillet 69. Je me souviens d'images, mais je ne suis pas sûr que ce soit... j'avais 3 ans à l'époque, et je ne suis même pas sûr qu'on avait la télé.
À partir de quand vous avez su que vous feriez ce que vous faites aujourd'hui?
Je l'ai su tôt, en fait, fin de troisième. Les profs me demandaient de mettre ce qu'on voulait faire et que la troisième, ça avait été la pire année. Je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Je m'avais mis jockey alors que j'ai peur des chevaux, enfin bref. Et puis, il y a une journée porte ouverte à la fac d'Orsay à côté. Et mon père travaillait à l'accélérateur linéaire là-bas. Il m'a emmené. Et il y a eu une conférence d'André Braik sur les explorations des sondes. À l'époque, ça devait être Pionier et un peu Voyager sur les planètes géantes du système solaire. Et là, j'ai su que c'était ça que je voulais faire. J'étais un passionné de science-fiction, donc j'ai commencé par vouloir... parce qu'en 77, j'avais 11 ans, je voulais voir La Guerre des Étoiles, donc je voulais être Luke Skywalker. Voilà, c'est clair. Après, j'ai voulu être astronaute. Il y a un copain de mon père qui a été candidat pour la première sélection d'astronautes européens et qui avait été rejeté parce qu'il avait un problème au rein. Donc là, je me suis rendu compte que bon, c'était extraordinairement aléatoire. Et il y a eu cette conférence de Braik que j'ai vue où là...
Qui vous a illuminé.
D'un seul coup, je me suis dit, mais en fait, non, c'est possible. Ça existe. Et donc, c'est une super chance parce que ça veut dire que j'avais 14 ans et je savais déjà ce que je voulais faire. Et tout le reste, ça a été... Finalement, après, je ne me suis plus jamais posé de questions. De toute façon, le chemin était clair, donc il fallait se donner les moyens de l'obtenir. Mais ce qui n'est pas facile, j'ai fait une prépa. Bon. Pour moi, tout ça, c'était des pas dans cette direction-là, parce que je savais où je voulais aller.
Et aujourd'hui, comment définir votre métier, votre fonction?
Ben, moi, je dirais que ce qu'est mon métier, c'est de trouver les connexions entre ce qu'on veut faire, c'est-à-dire ce qu'on veut savoir de l'univers... Comment on pourrait l'apprendre? Je ne suis pas un théoricien, je suis plutôt un interprète.
Et Marc Sauvage est aujourd'hui un des responsables scientifiques de la mission Herschel. L'observatoire spatial Herschel a été lancé au mois de mai dernier par Ariane 5. Il va s'attaquer au mystère de la naissance des étoiles et de l'évolution des galaxies. Il est équipé d'une caméra infrarouge qui a été conçue par le service d'astrophysique du CEA. Herschel est le plus grand télescope jamais lancé en orbite et sa maquette est en bonne place dans le service.
Il est 10 fois plus grand que ça.
Il ressemble à une grosse bonbonne de gaz.
Oui. Avec un télescope par-dessus. Et on ne peut pas mettre le télescope dans la bonbonne, parce que ça voudrait dire une bonbonne encore plus grosse, beaucoup plus massive, de toute façon trop grosse pour passer dans la coiffe d'Ariane. En fait, refroidir avec du fluide cryogénique, ça coûte très cher en termes de masse, et donc très cher en termes de lancement. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de refroidir le maximum de choses d'une façon qu'on appelle passive, c'est-à-dire Herschel, il est positionné avec le Soleil dans le dos, derrière ce grand pare-soleil.
Donc il est protégé du Soleil.
Donc il est protégé du Soleil. Sur le sommet de cette bonbonne, en fait, il y a quelque chose comme 40 cm de haut qui sont réservés pour les instruments. Donc la bonbonne, elle doit faire 2 mètres de haut à peu près. Il y a 40 petits centimètres sur lesquels on a le droit d'aller poser nos instruments. Qui font... Bon, ils sont quand même assez massifs, hein, parce que je crois que le plus massif doit faire 80 kilos ou un truc comme ça.
Then, the unbelievable has happened. They are lost in a one-way destiny in outer space.
On reparlera d'Herschel tout à l'heure, mais vous aviez quelque chose à nous montrer.
Oui, voilà, parce que Herschel, c'est un satellite infrarouge. C'est compliqué de faire des satellites infrarouges. Parce qu'il faut les refroidir, l'infrarouge... Enfin, d'abord, il faut faire des satellites, parce qu'on ne voit pas la lumière infrarouge du sol, très mal. Donc pourquoi est-ce qu'on s'embête à aller faire de l'infrarouge? C'est tout de même un petit peu se compliquer la vie.
Parce que la lumière visible, c'est très peu de choses, en fait, par rapport à tout ce qu'on peut, ce qu'on peut voir.
Voilà. Quelle que soit la façon dont on se le représente, la lumière visible, ça va de... C'est une toute petite gamme du rayonnement électromagnétique, qui va des rayons gamma aux ondes radio. Et là-dedans, le visible contient finalement assez peu d'informations. Alors pour nous, êtres humains, c'est une information absolument cruciale parce qu'on s'est adapté, parce que le Soleil émet la plupart de sa lumière dans le domaine visible. Et par contre, tout autour, il y a énormément d'informations qui est emmenée par la lumière. Donc c'est ce qu'on cherche à capter.
Et d'où viennent ces informations qu'on peut détecter en infrarouge?
Alors, l'infrarouge, c'est donc un domaine dans lequel ce qu'on va regarder, le rayonnement qu'on va capter, c'est le rayonnement de refroidissement des objets. Herschel, c'est l'infrarouge lointain. Donc, ce qu'on va regarder, c'est des corps dont la température est de l'ordre de 10 à 50 degrés au-dessus du zéro absolu. Donc, moins 260 jusqu'à moins 220 degrés.
Les recherches de Marc Sauvage ne sont pas simples. Ce ne sont pas de belles photos qui arrivent sur son ordinateur, mais des tonnes de données qu'il doit interpréter. Elles lui permettront peut-être de dire un jour comment se sont formées les premières galaxies de l'univers. Oui, peut-être.
La science, pour moi, c'est pas avoir raison. L'objectif, c'est pas d'avoir raison. Parce que je trouve que quand on y réfléchit, je vois pas comment est-ce qu'on peut imaginer, n'importe quand dans l'histoire de l'humanité, passée, présente ou future, je vois pas comment on peut imaginer un jour être capable de dire quelque chose sur l'univers et de dire « j'ai raison ». Parce que l'univers, s'il y a bien quelque chose qui nous dépasse, presque par nature, c'est ça. Donc ce qu'on dit, ce sont des approximations. C'est-à-dire que voilà, notre représentation de la réalité est ceci.
Aujourd'hui.
Voilà, aujourd'hui. Et demain sera sans doute autre chose. Moi, le plaisir que je trouve à faire ce métier, c'est pas parce que j'ai raison. Il n'y a pas une vérité absolue. Ce qu'il faut, c'est le faire sérieusement. C'est-à-dire, il y a des méthodes à mettre en place qui nous garantissent que si on se trompe, c'est parce qu'on n'avait pas l'information pour voir cette erreur, que la description qu'on a faite rendait compte de l'ensemble des faits dont on disposait, mais il nous manquait une partie de l'histoire, et pas parce qu'on avait mal réfléchi, ou ainsi de suite. Le fait d'avoir raison ou d'avoir eu raison, par exemple, ça ne me procure pas un très grand plaisir, parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse vraiment... c'est d'aller me promener dans l'univers. C'est ça que je veux faire. Enfin, c'est pour ça que je fais ce métier. Voir des trucs qu'on n'a jamais vus. Enfin, c'est... j'ouvre ma fenêtre et je vois l'univers. Enfin, c'est une fenêtre de mon ordinateur, mais je vois autre chose.
Et vous ne regardez jamais au télescope?
Non.
Jamais, vous ne faites jamais d'observation?
Enfin, si, si, ça m'est arrivé. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'astronomie, en fait, il y a deux catégories d'astronomes. Il y a ceux qui étaient astronomes amateurs, qui sont venus par là. Et puis, il y a ceux qui sont arrivés au métier d'astronome sans avoir jamais regardé à travers une lunette. Et moi, je suis venu par là. Moi, je suis venu plutôt par le côté imagination, quoi. J'étais fasciné par... J'étais attiré par l'espace, mais... Le fait de le voir à la lunette, c'était toujours une... Enfin, c'est pas une déception, parce que je trouve que regarder les anneaux de Saturne, c'est rigolo. Mais c'est pas le même niveau. Ça m'amuse, je trouve ça assez sympathique d'être capable de retrouver la nébuleuse Andromède ou des trucs comme ça. Mais oui, c'est rigolo d'aller observer le ciel avec une lunette, parce que le faire avec aussi peu de moyens, c'est sympathique. Puis on peut montrer des choses, mais quand même... Le grand frisson, c'est avec des grands télescopes, c'est avec des satellites où on voit des trucs qu'on ne peut pas voir avec les yeux.
Les savants turiers.
Fabienne Chauvière sur France Inter.
Nicolas, je passerai voir après parce que j'ai processé les cartes de NGC 7946 avec iPad.
L'infrarouge permet de détecter des objets que les télescopes optiques ne peuvent observer. L'infrarouge est un rayonnement passe-muraille. La caméra d'Herschel peut ainsi aller voir derrière les nuages de matière interstellaire et dévoiler les mondes enfouis de l'univers, à l'image de cette caméra infrarouge qui pourrait se révéler indiscrète.
Il faut faire très attention quand on manipule une caméra infrarouge. C'est comme l'infrarouge, ça voit ce qui est chaud. Et ça passe à travers beaucoup de matière, donc en particulier les vêtements, ça déshabille un peu les gens. Donc quand on montre, on montre pas en dessous de la... Et encore même, les hommes, oui, mais les femmes, on montre le visage.
Alors, est-ce qu'il est mignon comme ça? Oui, son voilà. Visage en infrarouge, c'est pas mal.
Donc on voit...
Mon cher Eric, tu apparais un peu jaune, ouais. Avec un casque rouge sur la tête.
Voilà, bah son casque est froid, en fait. On voit bien qu'il est... Ça protège bien ses oreilles. Les parties chaudes du visage, c'est souvent autour des yeux, la bouche.
Ouais. Mmh.
Et que le nez est souvent quelque chose de plus froid.
On
ne voit pas à travers son pull, mais c'est...
Ah, je suis déçu.
Et à travers les murs, ça
marche. Pas cet infrarouge-là, mais l'infrarouge de Herschel passe à travers les murs. Ouais. Parce que Herschel, il fonctionne, enfin, il emporte 2000 litres d'hélium pour pouvoir refroidir les instruments. Et ça ne suffit pas, parce qu'il faut que les détecteurs, eux, fonctionnent à 0,3 degrés au-dessus du zéro absolu, donc ils doivent être refroidis encore plus. Donc ça veut dire que ce n'est pas envisageable d'utiliser la même technique pour avoir une caméra submillimétrique. Pas encore.
Et quand il n'y aura plus d'hélium, les instruments seront morts?
Oui. Et puis il va dériver lentement autour de ce truc-là, s'éloigner. Et puis il est toujours captif du système Terre-Soleil, donc il reviendra un jour sur Terre, mais on ne sera sans doute pas là pour le voir.
Il va vivre combien de temps?
Dans l'espace, en opération, on a prévu 3 ans et demi. Là, en ce moment, on vise fin 2012, début 2013, et on va faire une mesure de temps de vie d'ici 15 jours. On va mesurer la quantité d'hélium qui reste à bord.
Simplifier au maximum, est-ce qu'on peut dire que l'infrarouge, c'est un détecteur de température?
Oui, on peut le dire comme ça. Mais la raison pour laquelle ça détecte la température, c'est parce que quelque chose qui est chaud ou quelque chose qui est froid émet de la lumière, mais pas à la même longueur d'onde. Pour nous, ça, c'est des températures, c'est quelque chose qu'on perçoit de façon sensible, mais ça correspond à des corps qui émettent de la lumière, et cette lumière est décalée dans le spectre, suivant leur température. Donc plus l'objet est chaud, plus il va émettre à courte longueur d'onde, et plus il est froid, plus il va émettre à grande longueur d'onde. Donc comme ça, moi je mesure par leur rayonnement leur température.
Et voilà comment vous pouvez mesurer la température des étoiles.
Exactement, mais je peux faire autre chose qui est aussi très intéressant, qui est une propriété du rayonnement infrarouge. C'est que... Donc moi je vais cacher ça.
Je décris. Il y a deux gobelets, un gobelet chaud, un gobelet froid, et vous avez recouvert les gobelets avec un sac en plastique totalement opaque.
Voilà.
Mais vous allez me montrer que vous allez pouvoir voir à travers.
Exactement. Ce qui nous intéresse, nous, la partie visible de l'univers,
on la connaît.
On la connaît bien. Maintenant, ce qu'on aimerait bien voir, c'est qu'est-ce qui est caché. Et il y a une chose, un processus qui est caché, qui est très très important, c'est celui de la formation des étoiles.
Mais vous arrivez à remonter jusqu'à des galaxies qui existaient dans l'univers quand il avait 10% de son âge.
Si elles sont là, on peut les voir. Maintenant, est-ce que c'est des monstres? C'est-à-dire, est-ce que c'est des objets complètement atypiques? L'univers est vaste, donc il y a forcément énormément d'objets atypiques dedans. Ou est-ce que c'est des objets représentatifs? C'est ça qu'Herschel va nous dire.
Comme Marc Sauvage, des centaines de scientifiques de toute l'Europe ont les yeux rivés sur cet observatoire spatial dont ils partagent les services. Tous les matins, une réunion en visioconférence fixe l'emploi du temps du satellite Herschel.
I have to talk with Hervé to finalize these comments on the point source pipeline script, and it's better that we talk about that tomorrow.
Okay. So Bruno and you should.
Pourquoi est-ce que vous avez besoin de ces réunions tous les matins avec vos confrères de toute l'Europe?
Justement, c'est parce qu'on est arrivé à un mode de fonctionnement régulier, mais on n'est pas encore dans une phase de routine. On trouve des nouvelles choses.
Et il y a combien d'utilisateurs d'Herschel?
Il y a plusieurs centaines de scientifiques parce que pour la première année, on va faire que ce qu'on appelle des programmes clés. C'est pas « ça serait bien », c'est vraiment « cela ». Il faut les faire. Donc la première année est dédiée à ça. Donc, il y a environ 25 à 30 programmes comme ça. Et sur chacun, il y a entre 20 et 50 personnes de science. Il y a plusieurs centaines de personnes qui attendent les données Herschel.
Qu'est-ce que vous espérez trouver avec Herschel?
Moi, personnellement, en fait, je m'intéresse à... Il y a un type d'objet qui me fascine beaucoup. Ça s'appelle les superamas stellaires. Donc les étoiles se forment dans les nuages, bon, ok. En général, elles se forment par ensemble. Et on va faire un amas d'étoiles. La plupart du temps, c'est ce qu'on appelle des amas ouverts, c'est-à-dire des étoiles qui ne sont pas liées les unes aux autres gravitationnellement. Et par exemple, les Pléiades, c'est un amas d'étoiles, c'est-à-dire que quand on les regarde dans le ciel, elles sont toutes les unes à côté des autres, et en fait, elles sont physiquement parlant, toutes les unes à côté des autres, même dans la troisième dimension, et elles ont à peu près toutes le même âge, donc elles se sont formées en même temps. Mais ça, c'est un amas qui, si on restait là suffisamment longtemps, on le verrait se dissoudre. Et il y a d'autres amas qui sont des amas globulaires, qui, eux, sont des étoiles qui sont liées par la gravité. Et la plupart de ces amas globulaires sont vieux, 14 à 15 milliards d'années. Mais il y a de ça une dizaine d'années, on a commencé à trouver des objets qui ressemblaient à des amas globulaires, mais jeunes. Parce que ces étoiles, elles ont... 1 à 10 millions d'années, donc c'est quand même des temps très très courts, on arrive à les former dans une structure qui est autogravitante et qui est extraordinairement massive, puisque ça fait plusieurs millions de masses solaires.
Donc ça, c'est votre question.
Et ça m'intéresse beaucoup, et surtout à cette échelle-là. C'est-à-dire, c'est pas qu'on en voit deux ou trois, mais qu'on en voit plusieurs milliers dans une structure extraordinairement compacte. Et alors, l'infrarouge est important pour ça, parce que, justement, on a découvert ces objets-là par leur émission infrarouge.
Est-ce que vous pouvez donner une définition simple de ce qu'est une galaxie?
Alors,
non, ça n'a pas l'air simple.
Non, c'est pas simple parce que, au contraire d'une étoile où on peut dire, voilà, une étoile, c'est quelque chose dans lequel il se passe ce phénomène physique. Une galaxie, c'est...
Donner une définition d'une étoile.
Une étoile, c'est une boule de gaz qui est suffisamment dense et chaude en son cœur pour que se déclenche des réactions de fusion thermonucléaire. Ça, c'est une étoile. Après, une galaxie, c'est un assemblage d'objets qui partagent quoi? Ils partagent un potentiel gravitationnel. Donc, ils se tournent les uns autour des autres. Et ce qu'on va trouver dans une galaxie, ça va être des populations d'étoiles. Dans une galaxie comme notre galaxie, il y a des étoiles qui sont aussi vieilles que l'univers, 14 milliards d'années. Et puis, il y a des étoiles qui se sont formées hier. Et puis il n'y a pas que des étoiles, il y a du gaz interstellaire. Cette matière interstellaire, elle provient en partie des époques de formation de la galaxie. Il y a aussi, dans une galaxie comme la plupart des galaxies spirales, il y a un trou noir supermassif au cœur, donc quand on dit supermassif, ça veut dire plusieurs millions de masses solaires, dont on ne comprend pas encore bien l'origine. Évidemment, toutes ces choses-là, toutes ces phases, échangent les unes avec les autres. De l'énergie, les étoiles émettent de la lumière, le milieu interstellaire l'absorbe, de la matière, il y a une partie du milieu interstellaire qui se transforme en étoile, il y a des étoiles qui rejettent du gaz interstellaire. Donc c'est une galaxie, c'est une machine très complexe. C'est clair que la formation d'une étoile, c'est un effet qui, à l'échelle d'une galaxie, est microscopique. Mais pourtant, ça se passe à plein d'endroits différents et ça va influer sur le devenir d'une galaxie.
Et là, on a l'impression de voir quand on regarde, tu vois, ouais.
Herschel sonde donc à 1,5 million de kilomètres de chez nous, affranchi de l'atmosphère terrestre, des nuages qui sont de véritables nurseries de jeunes étoiles. Il permettra peut-être de reconstituer l'histoire de la vie des galaxies d'il y a 10 milliards d'années à nos jours, ce qui a de quoi donner le vertige. Mais le seul vertige que Marc Sauvage connaît est celui des parois rocheuses lorsqu'il pratique l'escalade, lui qui aime sans cesse repousser les limites.
Dans le domaine où je travaille, il y a en fait deux volets. C'est toujours des questions d'origine. Comprendre quel est le phénomène physique ou quels sont les phénomènes physiques qui font que les étoiles n'ont pas toutes la même masse. Et puis, à une échelle beaucoup plus grande, essayer de se constituer un scénario de formation des galaxies et d'évolution qui soit compatible avec ce qu'on voit aujourd'hui des galaxies et, d'un autre côté, ce qui doit se produire dans l'univers quand il est très très jeune, qui est un moment où il est dominé par la matière noire, qu'on ne voit pas. Nous, ce qu'on voit, c'est les galaxies. Il faut qu'on arrive à reconstituer un scénario qui soit compatible avec ces conditions limites-là et compatible avec ce qu'on sait qui doit se passer dans les galaxies.
Pour qu'on comprenne bien, puisque vous vous intéressez à la masse des étoiles, le Soleil, c'est une étoile massive ou peu massive ?
Alors, le Soleil, c'est une étoile plutôt légère. Il y a des étoiles qui font 100 masses solaires. Et on a aussi des étoiles qui sont à un dixième de la masse du Soleil. Donc le Soleil est une étoile relativement typique, ce qui nous conforte dans l'idée qu'on est un système solaire relativement moyen, donc il doit en exister des centaines de milliers d'autres, et ainsi de suite.
Dominique A.
Je voudrais être n'importe où, nanophalique. En d'autres termes, n'importe où, nanortalique. À embrasser d'autres musiques, à peaufiner d'autres répliques, coucher debout de bon matin. L'or aquatique est remonté. Des bateaux décharges argentés, des millions d'écailles rougies, des milliers d'yeux vides. Va fondre devant l'inconnu, nanortalique. Nanortalique. passer le cap. Des remous nanortaliques. Sirène blanche, retrouvons-nous sur un ferry de la Baltique. Partons sur Nanortalique. Nanortalique. Nanortalique.
C'était Dominique A qui sera ce soir à Guéret et le 26 au Casino de Paris pour une tournée en partenariat avec France Inter. Merci à Marc Sauvage du Centre d'astrophysique du CEA de Saclay. Les images qui proviennent du télescope spatial Herschel peuvent être consultées sur Internet. Tous les liens sont sur notre site. Merci à Catherine Rosier, Irène Menahem, Thierry Dupin, Christian Charles, Florence D'Artois, Éric Girard et Alain Arnstam qui ont participé à cette émission. Les Saventuriers vous souhaitent une bonne fête de la science. Cela commence lundi et c'est Guillaume Erner que vous retrouvez tout de suite pour le zapping de France Inter. À ses côtés, jusqu'à 16h30, la journaliste Elisabeth Lévy.